Radio Kapi.
Oh, Kapi.
L'actualité reste dominée par les états généraux de la justice qui se tiennent depuis hier à Kinshasa avec comme thème général « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quelle thérapie pour la guérir ?» Dans nos éditions du matin, vous avez suivi le chef de l'État Félix Tshisekedi qui annonce des sanctions contre tout magistrat qui se livrerait encore aux antivaleurs. Dans le présent journal, vous entendrez le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle qui rappelle le rôle de la justice dans la société. La société civile et les forces vives de l'Ouest au Congo central demandent à l'administrateur de ce territoire de quitter cette entité. Alfred Ngoma est accusé notamment de complicité dans la vente illégale des terres à l'Ouest. Notre invité ce midi est le directeur technique à la Commission nationale des préventions routières. Valère Fumukani s'exprime sur le système de circulation altérée lancé depuis quelques jours à Kinshasa pour mettre fin aux embouteillages et faciliter ainsi les déplacements des Kinois. Madame, Messieurs, bonjour. Deuxième jour, c'est jeudi, des travaux des États généraux de la justice. Ouverts hier à Kinshasa, ces travaux visent à faire le diagnostic des maux qui rongent la justice congolaise. À l'issue de ces assises prévues pour une semaine, plus de 3500 participants devraient évaluer et proposer des solutions au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Lors de son allocution à l'ouverture de ces travaux, le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle a rappelé le rôle de la justice dans la société. On écoute Dieudonné Kamoulé dans cet extrait proposé par Jeff Ngai.
Nous voilà encore 9 ans après appelés à réfléchir sur une thérapie à administrer à la justice pour sa guérison. Il y a au moins un point sur lequel tous les participants devraient être d'accord. C'est l'importance de la justice. Elle sert à préserver la vie en société. Nous voulons tous une justice impartiale et accessible à tous, qui inspire confiance et qui assure l'équilibre dans la société. Et pour ce combat, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est et restera sans compromission. Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent les milieux de la justice, afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec succès si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. J'émets le vœu que les travaux se déroulent en toute franchise, avec toute la courtoisie nécessaire pour poser un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et idoines, mettant sous bassement la considération de la dignité humaine.
On enchaîne avec le Sud Kivu, où le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, est à la recherche des voies et moyens pouvant contribuer au désengorgement de la prison centrale de Bukavu. Cette maison carcérale, construite avant l'indépendance, se retrouve débordée par la population carcérale. Sa capacité d'accueil a quintuplé. Alors, comment le CICR compte-t-il faire pour remettre les pensionnaires de la prison centrale de Bukavu dans des conditions acceptables? Jean Kassami.
L'objectif principal consiste à développer des bonnes pratiques en vue de désengorger la prison. C'est pourquoi il a convié les acteurs judiciaires, pénitentiaires, civils et militaires du Sud Kivu à un séminaire de réflexion pour voir dans quelle mesure il faut réduire les détentions préventives. Nelly Seya, magistrate du parquet, a participé à ce séminaire organisé à Bukavu du 5 au 6 novembre 2024.
Ça permettra d'abord aux détenus de vivre un peu plus aisément. Parce que, comme on le dit, ils sont privés de liberté, mais pas des autres droits.
À quoi les CICR s'attendent-ils au finish? Marie Bonheur Bahonda, chef d'équipe protection au Sud, qui vous répond.
Nous sommes optimistes dans la mesure où, à travers ce séminaire, il y a eu cet éveil à la conscience professionnelle, déjà. On croit que les différents acteurs impliqués vont faire le rôle qui leur revient.
La prison centrale de Bukavu compte actuellement une population carcérale au-delà des 5000 pensionnaires contre 1500 initialement prévus. Une prison de substitution est en projet de construction à Kashusha, dans le territoire de Kabare. La pose de la première pierre a déjà eu lieu, mais à ce stade, l'on ignore l'évolution des travaux. Jean Kassami, Bukavu Radio Okapi.
Direction le Congo central. L'administrateur du territoire de Luozi, désavoué par la société qui lui demande de quitter le sol de Luozi depuis hier mercredi. À l'issue d'une tribune d'expression populaire tenue à la cité de Luozi, la société civile et les forces vives accusent Alfred Ngoma notamment d'une complicité dans la vente illégale des terres à Luozi. Dans leur déclaration, les forces vives de Luozi fustigent le silence des autorités provinciales et nationales dans le conflit entre l'administrateur du territoire et ses administrés. La déclaration est élu par Eugène Kanzatonda, président de la société civile de Luozi. Il est au micro de Nana Plurich Mambou.
Qu'est-ce que nous n'avons pas dit, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour stopper cette hémorragie dictatoriale de M. Ngoma Lossa vis-à-vis de la population de Luozi? Mais cela s'est avéré inutile auprès de M. le gouverneur. Étant donné qu'il a encore défié la population, dès son arrivée clandestine, paralysant les bacs pour l'attendre jusqu'à 19h, sans se soucier du risque que court l'engin de son personnel, aussi de son interdiction immédiate de l'émission de la société civile à Radio Tomosono, tout en piétinant la Constitution dans son article 23, qui garantit que toute personne a droit à la liberté d'expression. Vu sa manière de se comporter, la force vive attire l'attention du gouverneur que, à dater de ce mercredi 6 novembre 2024, M. Ngoma Lossa, l'athée sortant, qui vous désobéit, vous gouverneur, n'est plus considéré comme administrateur du territoire de Luozi, car la population vient de lui retirer toute la confiance et le désavoue. Pour ce faire, tout de suite là, il doit quitter le sol luozien pour notre rive afin de faire rapport à sa hiérarchie. Quant aux autres autorités locales, provinciales et nationales, la force vive fustige et dénonce votre silence sur ce dossier Ngoma Lossa Alfred et son complice Ngoma Lossa la Dikadase. Ce silence que nous qualifions de complice.
Contacté, l'administrateur du territoire de Luozi indique que du côté de l'administration, il n'y a aucune action disciplinaire ouverte à son encontre. Alfred Ngoma Lossa invite la société civile à brandir les preuves de tout ce dont on l'accuse. Il conclut en affirmant qu'il ne sortira pas de Luozi où il est né et a grandi, puisque la société civile ne peut chasser un pouvoir établi. Province de l'Ituri, plus de 200 jeunes à risque sont utilisés depuis lundi comme main d'œuvre pour rétablir les différentes routes des dessertes agricoles dans les territoires d'Irumo. Ces travaux sont entrepris par la société minière de l'Est du Congo, SMEC, avec l'appui des autorités coutumières locales. Le but est de désenclaver cette entité qui approvisionne plusieurs agglomérations à vivre, mais aussi faciliter les échanges commerciaux pour permettre la libre circulation des personnes et des biens. La société civile salue cette action qui renforce la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est ce que nous dit à Bounia, Ezekiel Muzalia.
Il s'agit du tronçon Bavonkoutou-Mateumba, long de 60 km qui débouche sur plusieurs entités de la chefferie de Basili et Olesevonkoutou dans la partie sud du territoire d'Irumu. L'objectif est de rétablir la circulation sur cette route qui est impraticable depuis plus d'une année. Le président des jeunes du village de Bavonkoutou salue cette initiative et qui, selon lui, favorise aussi la cohésion sociale des jeunes. David Solossé.
Cette route est d'une importance capitale, surtout pour la communauté. Parce que c'est de cette route que viennent toutes les marchandises qui ravitaillent la province. Alors l'insécurité a fait qu'il n'y ait plus de maintenance sur cette route où il y a une forte production des produits champestres.
Le représentant de la société minière de l'Est du Congo invite la population à s'approprier ces projets pour la pérennisation de la qualité de cette route. Modeste Likoma.
La durabilité de cette route, c'est la maintenance. Toutes les fois qu'un besoin se manifestera, la maintenance continuera aussi longtemps que cette route existera. Et profitons pour demander au gouvernement de nous emboîter le pas.
Ces travaux, financés presque entièrement par un acteur politique local, bénéficient du soutien des autorités coutumières. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, la situation que traverse ces jours le territoire de Kibombo mérite une attention particulière de la population et des autorités politico-administratives. C'est le député provincial élu de cette circonscription électorale qui l'est dit à Radio Capi après son passage dans ces territoires dans le cadre de ses vacances parlementaires. Selon Dr Papi Omeonga Tchopa, le territoire de Kibombo n'a plus de routes pour permettre à la population d'effectuer librement ses mouvements et arriver à Kindu, chef-lieu du Maniema. L'éducation des enfants est sacrifiée et la sécurité des populations n'est pas garantie. Cette information est aussi confirmée par la société civile locale. Radio Capitino, Florence Kizalunga.
De Kibombo de se rendre compte de la situation générale que traverse la population de cette partie d'Imaniema. Une situation qui laisse à désirer, selon le député Papi Omeonga Tchopa.
Quitter Kindu pour atteindre Kibombo, c'est pas facile. Et en dehors de ça, nous avons trouvé qu'il y a des écoles. Je ne sais pas comment considérer les écoles qui sont là, mais ce sont des écoles mécanisées et payées. Et ils étudient dans des conditions très difficiles. S'il y a soleil, les élèves se dispersent. S'il pleut, la même chose. Maintenant, quand est-ce qu'ils auront terminé le programme? C'est un problème sérieux. On trouve presque partout là où il y a des centres de santé, et même à Kibombo, à l'hôpital général de référence, on trouve qu'il y a des manques, qu'il y a des médicaments. Les professionnels de santé qui sont là, il y a moins de 5 de ceux qui sont payés. Il y a aussi des problèmes de conflits coutumiers. Et aussi dans le secteur de la justice, la même chose. Et les magistrats que nous avons trouvés là-bas, ils sont seulement au parquet. Au niveau du tribunal de paix, il n'y a personne. Le parquet peut arrêter, mais on ne sait pas fixer le dossier pour arriver à la fin de la procédure. Il paie l'argent, mais le problème n'est pas résolu.
Ces derniers élaborent son rapport et tient à contacter les autorités compétentes pour qu'on arrive à trouver des solutions dans les différents secteurs touchés. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre nouvelle, un drame s'est produit dimanche dernier dans la commune de Panda Likasi dans le Haut-Katanga. Un arbre planté au bord de la route est tombé sur un bus de transport en commun, tuant au passage une personne et blessant plusieurs autres. Du coup, la problématique de la gestion des arbres plantés le long des artères refait surface. Comment la coordination urbaine de l'environnement entend-elle résoudre cette question? On écoute Mathieu Mouchaïl, responsable de cette coordination, joint par Jean Gando.
La coordination urbaine de l'environnement préconise l'identification de vieux arbres qui présentent un danger permanent sur la ville et leur abattage pour éviter le pire pendant cette saison de pluie et surtout par le rafale de vent violent, la tempête ainsi de suite, en prévision d'un remplacement par de jeunes plantes qui se trouvent dans la pépinière de notre coordination urbaine. La population doit éviter de brûler les arbres qui se trouvent le long de troncs d'arbres. La taxe d'abattage est cédée aux entités décentralisées. La responsabilité civile revient aux communes qui s'occupent de la présente taxe selon l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition. Alors la coordination est en train de faire un effort pour que la population vienne nous montrer là où l'arbre présente un danger et nous devons faire un programme pour aller l'abattre.
Et au Kasaï central, la Fondation Faveur Santé Universelle pour la Femme et l'Enfant, FASUFEC, s'active dans les dépistages contre le cancer du sein chez la femme. Cette structure sensibilise à Kananga les albinos et les détenus sur cette maladie dangereuse pour la femme. Gynécologue au sein de FASUFEC, le docteur Jeannot Kabwe indique à Radio Kapi que l'on peut guérir de cette pathologie si on est diagnostiqué tôt. Ses propos sont recueillis par François Kadima.
Le cancer du sein aujourd'hui est pratiquement un vrai problème de santé publique. Il y a des facteurs. Ils peuvent d'abord exposer la femme. Nous avons dans les facteurs qui sont avérés, nous avons d'abord principalement l'âge. En clinique, nous avons près de 78% de ce cancer du sein qui est dépisté autour de la femme au-delà de ses 50 ans. Nous faisons le dépistage d'abord pour que les femmes puissent d'abord connaître la maladie. Parce que dans notre milieu, nous nous sommes rendus compte, nous qui sommes à l'hôpital, que la plupart des mamans qui gênent malades à l'hôpital, elles viennent tard. Elles viennent tard, pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la maladie. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous devons aller vers ces femmes, leur apprendre quelque chose sur le cancer du sein. Parce que dans nos milieux, c'est presque un mythe. Et généralement, quand les mamans ont les signes de cette maladie, elles ne viennent pas généralement à l'hôpital. Elles se font soigner à la cité, soit par automédication, soit par le traitement naturel. Ainsi, quand elles arrivent à l'hôpital, elles arrivent en retard.
Ce journal se poursuit dans la ville de Matadi au Congo central. Les conseillers communaux de la commune de Matadi ont effectué ce jeudi une visite au marché Vwandu. C'est pour palper du doigt les réalités des vendeurs et des vendeuses dans ces lieux de négoce. Les conseillers communaux de Matadi disent avoir constaté avec préoccupation la présence des déchets accumulés, des poubelles débordantes et le manque de latrines dans ces grands marchés de la ville. Ces derniers appellent le bourgmestre de la commune de Matadi à mettre en place une politique d'assainissement en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et des propriétés dans ces marchés pour le bien-être des commerçants et des consommateurs. Nana Purushwambu.
Sur terrain, pour palper du doigt les vécus quotidiens des vendeuses et vendeurs du marché Voidou, les trois conseillers communaux qui comptent la commune de Matadi ont fait un constat déplorable qui traduit selon eux l'absence de l'autorité de l'État. Les commerçants payent des tickets de 400 francs tous les jours auprès d'un préposé de la commune et 500 francs chaque samedi pour les salongo, mais l'environnement dans lequel ils vendent laisse à désirer. Pour Jean-Claude Moukanya, président du conseil communal de Matadi, cette situation est inadmissible.
Tout ça, c'est à cause d'une très mauvaise politique liée à l'assainissement de l'exécutif communal. Parce que si vous entrez dans les marchés, vous allez remarquer, il n'y a pas un programme très efficace lié à l'assainissement. Les marchés très sales, ce qui fait que lorsqu'il pleut, il y a de la boue partout. Il y a des gens qui vendent même à côté de la boue. Je me dis, où sont les services de l'hygiène même de la commune? Parce que ce que les mamans là nous vendent, c'est ce que nous consommons. Mais lorsqu'ils vendent dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire c'est la maladie aussi qui...
La visite des conseillers communaux vise à sensibiliser la population sur l'importance d'un environnement propre et à encourager des actions concrètes des autorités pour remédier au problème de l'insalubrité dans cette municipalité. Ils promettent de faire des recommandations auprès de leur hiérarchie à ces sujets. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Parlons de l'opération de sensibilisation à l'identification des parcelles des 6 quartiers de la commune de Rwenzori dans la ville de Beni au nord Kivu qui a été lancée ce mercredi dans le but de doter ces parcelles des plaques numériques. Cette initiative, dont la durée reste indéterminée, a été mise en place par les bourgmestres de la commune pour résoudre les problèmes de sécurité, mais aussi pour garantir une identification précise des habitations. Le commissaire supérieur Rémi Masashi Gitanda explique les bienfaits de cette opération au micro de Marc et Marofimbo.
La numérisation de parcelles est tout à fait indispensable parce que plusieurs fois, les patrouilleurs, les équipes d'intervention motorisées ont de la peine à pouvoir intervenir pour secourir les personnes qui sont visitées par des bandits non autrement identifiés. C'est pour cela que nous sommes mis ensemble avec le comité local de sécurité et nous avons décidé que cette opération se fasse. Nous avons décidé qu'il y ait d'abord sensibilisation et après la sensibilisation, les gens pourront maintenant passer à réaliser cette opération pour qu'elle soit effective. Parce que vous savez, même sur le plan social, les gens doivent savoir tel citoyen, tel compatriote habite où. Quand il donne le nom de son avenir, il faudra qu'il y ait quand même les numéros. Comme ça, la personne s'oriente facilement. Et même s'il est transporté par un motocycliste, le motocycliste n'aura pas de la peine pour pouvoir le transporter puis le déposer là où il a choisi. Donc, la numérisation des parcelles est très très importante, même dans la vie sociale de la population.
Actualité internationale.
Au Gabon, c'est l'ouverture de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel prévu le 16 novembre en cours. Ces jours-là, les Gabonais seront appelés aux urnes pour voter par un oui ou non sur le projet de la constitution du pays qui prévoit notamment un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Ces projets divisent les Gabonais.
L'invité.
Le ministère des Transports et Voies de Communication et les autorités urbaines de Kinshasa ainsi que les autres services étatiques ont lancé depuis quelques jours le système de circulation alternée. Invité des Radio Capi, le directeur technique à la Commission nationale de prévention routière CNPR, Valère Fumukani, explique que cette politique entend endiguer les embouteillages et faciliter les déplacements des populations dans la capitale. Il se réjouit que cette mesure expérimentale produise déjà des résultats escomptés. Valère Fumukani s'entretient avec Blaise Nong.
Bonjour Monsieur Valère Fumukani.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous avez entamé l'expérimentation des mesures de lutte contre les embouteillages à Kinshasa. En quoi consiste cette opération?
Merci beaucoup. L'opération consiste à des mesures purement préventives pour que les Kinoises et Kinois puisse maintenant circuler assez librement aux heures de pointe. C'est comme ça que nous avons eu à dédier certaines artères à sens unique alterné aux heures de pointe. Nous avons l'avenue Ngouma du côté ouest qui est dédiée à sens unique de 5 heures juste jusqu'à 10 heures. L'essence est de Météo vers Kitambo Magasin. À part ça, nous avons également, toujours du côté ouest, l'avenue du tourisme. Le sens unique, le matin de 5h à 10h, commence au pont Mimosa jusqu'au niveau de Kitambo Magasin. Et toujours le matin, de 5h à 10h, l'avenue Mondjuba au niveau de Kitambo Magasin a d'habitude 3 bandes du côté droit. Nous avons ajouté une bande additionnelle, la bande qui vient après les séparateurs, qui constitue maintenant 4 bandes pour le sens qui tombe au magasin vers la gare centrale. Et puis nous disons de 10h à 15h, la situation est libre et jusqu'à 15h. De 15h maintenant, nous commençons le sens inverse. C'est comme ça que nous sommes en train de conseiller les avant-midi à tout le monde qui prenne ces voies-là de ne pas monter sur le saut des moutons.
Quel est votre constat sur terrain après une semaine que vous avez lancé ces opérations?
Nous sentons qu'il y a vraiment une nette amélioration parce que la population finalement commence à comprendre ce que nous voulons. Donc nous sommes peut-être déjà autour de 80% d'amélioration de cette situation-là. Pour ceux qui viennent déjà de l'UPN, ils nous disent qu'ils font 20 minutes tout au plus pour arriver au niveau de Kitambo Magasin, ce qui ne fut pas le cas avant. Je vous informe que nous venons de commencer également poids lourd avec les tronçons Baramoto jusqu'à la gare centrale.
Parmi les difficultés aussi, nous avons appris que des majorations des prix des transports en commun à cause justement des détours que vous avez imposés aux chauffeurs. Quelles sont les solutions que vous préconisez?
D'abord, je tiendrai à vous dire qu'il n'y a pas un rapprochement entre cette opération que nous faisons et puis cette montée-là des prix. C'est la mauvaise foi, ce sont les récidivistes. Donc, tous ceux qui font là, en tout cas, ils se verront devant la loi.
Avez-vous pris des dispositions pour les officiels sur qui prennent parfois des sens contraires sans les moindres respects du code de la route?
Nous sommes en train de demander à tout le monde de respecter le code de la route. Mais du moins, nous sommes pendant la période de sensibilisation. Nous savons voir les véhicules qui sont prioritaires. Nous savons lire également la mission pour cet officiel qui est prioritaire. Et nous savons aussi autoriser certains cas. Mais du moins, nous demandons à tout le monde de pouvoir plutôt respecter le code de la route.
Que répondez-vous, M. Valère, à ceux qui estiment que votre opération connaît des problèmes de communication, surtout que la population quinoise, pour la majorité, n'a pas été préparée?
Vrai, il est vrai que ça peut être un défaut de communication. Mais du moins, nous sommes déjà là au niveau des réseaux sociaux et partout, tout le monde nous lit et tout le monde nous comprend déjà. Mais du moins, pour ceux qui n'ont pas encore compris, en tout cas, qu'ils fassent maintenant les efforts. Et nous sommes en train aussi d'autoriser certains, parce que nous sommes toujours pendant la période de sensibilisation. Le souhait que tout le monde puisse comprendre et que tout le monde puisse faire ce que nous voulons. En peu de temps, nous allons comprendre et voir que la situation s'est améliorée.
Si on vous demandait d'adresser un petit message aux officiels et puis aux citoyens lambda, que diriez-vous par rapport à cette opération?
Je dis merci à tous les Quinoises et Quinois. Ils sont en train de nous écouter, observer ce que nous sommes en train de dire. Et le message que je lance également aux officiels, c'est de respecter ce que nous avons mis en marche comme mesure pour que nous ne puissions plus tomber ces phénomènes d'embouteillage qui nous rend la circulation difficile sur nos routes, qui nous bouffe tout le temps. Un trajet que nous pourrions faire en 20 minutes, nous le faisons en 2 heures du temps. Voilà un peu tout ce que je peux dire.
Monsieur Valère Foumoukani, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Par ici s'achève ce journal coordonné par Jean-Désiré Kanyama sous la supervision de Martin Sebujangwe. Polydor Basunga a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Massanze à la présentation. Merci d'avoir été des nôtres.